Ce que je vous invite à lire et méditer ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 12 à 20. C'est un des trois textes qui nous est proposé dans les listes de lecture, pardon, pour ce matin. Nous lisons donc Colossiens 1, versets 12 à 20. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quel texte ! Voilà un hymne christologique centré sur le Christ, un hymne très dense, très riche, un peu complexe, c'est vrai. Ça arrive parfois dans les écrits de l'apôtre Paul. D'autant que, ça ressort peut-être pas en français, mais en grec, c'est 9 versets, c'est une seule phrase. Ça, c'est typiquement de l'apôtre Paul, ça. Donc, c'est un hymne, globalement, qui a une portée extraordinaire et qui a une richesse, une densité incroyable. Et malgré sa densité, malgré cette difficulté, peut-être à la première lecture, l'introduction nous montre bien qu'il nous est donné pour nous conduire à la louange. Avec joie, rendez grâce au Père. Et au cœur de cet hymne, il y a une évocation du Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Alors je ne vais pas ce matin vous faire une étude biblique. Vous n'avez qu'à venir aux réunions de semaine pour l'étude biblique. Mais pour simplement mettre en évidence une ou deux choses qui nous permettent de comprendre un peu ce texte. Et je me contenterai principalement de souligner deux expressions clés, ici, qui autour desquelles s'articule cet hymne. Au verset 15 et au verset 18. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Et verset 18, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Cet hymne s'articule autour de ces deux affirmations qui placent le Christ comme étant un premier-né. Premier-né de toute création, premier-né d'entre les morts. Deux titres qui affirment en réalité la double nature du Christ, à la fois homme et Dieu. Il est le premier-né de toute création. Cette expression, il ne faut pas se tromper, elle ne veut pas dire qu'il a été créé. Il suffit de voir ce qui est dit autour de ce texte, de ce verset, pour s'en rendre compte. On nous dit que tout a été fait par lui, pour lui, que tout vient de lui. Ce serait difficile de dire qu'il est créé si tout a été créé par lui et en lui et pour lui. Non, il n'est pas une créature, le Fils n'est pas créé, mais il est celui par qui tout a commencé. Il est celui par lequel tout est venu à naître. Il est né avant que quiconque naisse. Il est éternel, il est Dieu. Il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient, nous dit cet hymne. Il est le Créateur, il est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, celui qui rend Dieu visible. Et on a parlé du Dieu invisible tout à l'heure avec la minute des enfants. Eh bien, ici, cet hymne sous-entend que c'est le Christ qui va rendre Dieu visible par l'incarnation. En devenant homme, Dieu devient visible. Ce Dieu invisible, on peut le voir. Il est la tête du corps, de l'Église, celui qui est à l'origine, celui qui dirige, celui qui est chef suprême de son Église. « Je bâtirai mon Église », disait Jésus. Il est le premier-né de toute création. Il est le Créateur. Et puis, il est aussi le premier-né d'entre les morts. Cette expression, elle est peut-être plus facile à comprendre que la première. On saisit bien qu'il est question ici de la résurrection. Naître d'entre les morts, c'est ressusciter. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Et du coup, parler ainsi de la résurrection, c'est affirmer aussi son humanité. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Parce que finalement, Dieu peut-il mourir ? Non. Dieu ne peut pas mourir. Un homme, oui. Le Fils de Dieu devenu homme, lui, pouvait mourir. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, c'est ce que nous proclamons régulièrement, toujours d'ailleurs, c'est le cœur de l'Évangile, et il est donc né d'entre les morts. Il est ressuscité. Et il n'est pas ressuscité pour lui seulement, comme un cas unique qui ne se répétera pas, non. Il est ressuscité en tant que premier représentant d'une humanité nouvelle, premier-né d'entre les morts, qui inaugure d'autres naissances d'entre les morts, celle qui nous est promise, à nous qui appartenons au Christ, à nous qui sommes aussi dans cette espérance de la résurrection un jour, pour entrer pleinement dans cette humanité nouvelle. Il est le premier-né d'entre les morts, il est le premier représentant d'une humanité nouvelle par sa résurrection. En un mot, on pourrait dire, pour résumer la portée de cet hymne, que tout a commencé dans le Fils et tout peut toujours recommencer par le Fils. Premier-né de la création, il est premier-né d'entre les morts. Premier-né dès l'origine, il est celui qui rend les résurrections, les recommencements, les vies nouvelles possibles, parce qu'il est né, premier-né d'entre les morts. Alors affirmer que le Fils est au commencement de tout, commencement du monde, commencement de l'humanité, d'une humanité nouvelle, au commencement de l'Église, à l'origine de toute chose, c'est affirmer que sa place, sa seule place, c'est la première. Afin d'être en tout le premier, dit l'apôtre Paul dans cet hymne. Le salut, au début, n'est-il pas présenté comme étant le fait d'être transporté dans le royaume de son Fils? Et un royaume, qu'est-ce que c'est? Sinon un lieu où règne un roi. Et un roi à la première place. Le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts, peut-il se contenter d'un strapontin dans notre vie? Sa place, c'est sur le trône. Sa place, c'est la première et pas une autre. Est-il le premier-né de ta vie? Est-ce lui qui est à la première place? Est-ce lui qui est à l'origine de tout? Celui de qui tout vient et pour qui toute notre vie est destinée. Alors, en général, on le traduit comme ça dans le milieu évangélique. Est-ce qu'il est ton sauveur et ton Seigneur? Comme ça, c'est pas une expression dans la Bible. Bon, on parle de sauveur, on parle de Seigneur, mais Jésus, avoir Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est une expression bien évangélique, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Et cela interroge, je crois, la notion de Seigneur et Sauveur. Comment le Christ premier-né de la création, premier-né d'entre les morts, présenté dans cet hymne, donc dont la place légitime est celle de Seigneur, celle de Sauveur dans notre vie, comment est-ce que ça se traduit concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et je crois que ça dépend du type de Seigneur que nous avons, du moins de la vision que nous en avons. Et là, je pense que les visions... sont diverses. Pour certains, le Seigneur est un Seigneur autoritaire, autoritariste, presque un despote, un dictateur, qui nous dicte à la virgule près ce qu'il faut dire et au geste près ce qu'il faut faire. Et certains, je crois, ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur despotique, qui les oblige à renoncer à toute liberté, renoncer à tout plaisir, renoncer à toute joie, parce qu'il est Sauveur et Seigneur. Et dans cette vision d'un Seigneur despotique, on en vient à porter un joug d'obligations et de contraintes. Si on a un Seigneur esclavagiste, on sera des chrétiens esclaves. Légaliste, esclave d'obligations et de contraintes. La vision que nous avons du Seigneur, si c'est un Seigneur esclavagiste, ne nous étonnons pas d'être des chrétiens esclaves. Pour d'autres, hein, c'est un Seigneur de pacotille, un roi fantoche, qui n'a de roi que le titre. Dire que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur, c'est une jolie formule, mais ça ne change pas grand-chose. Il n'a aucun pouvoir, sinon honorifique. C'est juste une étiquette, finalement, qu'on pose sur le Seigneur. Il est Sauveur, il est Seigneur. Mais finalement, on se fiche bien concrètement de son avis. Un Seigneur de pacotille, ça risque de donner aussi des chrétiens de pacotille. Si avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est juste une étiquette qu'on pose sur lui, eh bien, rassurez-vous, vous aurez juste une étiquette chrétienne, c'est tout. Un Seigneur de pacotille donne des chrétiens de pacotille. Alors finalement, quelle est la meilleure image du roi, du Seigneur, du Sauveur que le Christ veut être pour nous? Ne serait-ce pas celle qu'il donne lui-même dans l'Évangile? Cette belle image du berger, le roi berger, qui est d'ailleurs une image qui traverse aussi toute la Bible, dès l'Ancien Testament, où le roi est comparé à un berger, pas un despote, pas un noble juste qui a reçu le titre de ses parents, non, un berger qui prend soin de son troupeau, un berger qui conduit, un berger qui aime, un berger qui connaît, un berger qui est humble, mais qui est dévoué, un berger qui conduit là où il faut aller. Dans notre texte, dans notre hymne, il délivre, il pardonne, il dirige, il réconcilie, il fait la paix. Ce n'est ni un roi qui contraint, qui oblige, ni un roi qui ne fait que de la figuration dans notre vie. C'est un roi qui se tient devant, qui nous guide, qui nous dirige. C'est un roi qui délivre et un roi qui conduit. Avoir ce roi dans sa vie, avoir Jésus-Christ comme berger, comme Sauveur, comme Seigneur, ce n'est pas avoir un despote qui me rend esclave d'obligations et de contraintes. Ce n'est pas avoir un roi de pacotille qui n'a aucune influence dans ma vie. C'est avoir un roi berger qui demande ma confiance, qui demande cette confiance en toutes circonstances. Ce qu'il me demande, c'est d'écouter sa voix. Relisez cette belle parabole du bon berger dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Ses brebis entendent sa voix. écouter sa voix, tant pour me conduire dans des bons pâturages. Quelqu'un a lu le psaume 23 tout à l'heure. Nous conduire dans de bons pâturages. Et me dire aussi, là où il ne faut pas aller, parce que c'est dangereux pour moi. C'est un roi qui me conduit et qui, lorsque je suis en danger, me protège. Et qui, lorsque je m'éloigne de lui, vient me chercher. Voilà le roi qui est le Seigneur pour moi. Si je tombe, malgré tout, il me relève. Si je m'éloigne, il vient me chercher. Le premier-né d'entre les morts, n'est-il pas celui par lequel une résurrection, une vie nouvelle, un recommencement est toujours possible? Alors c'est vrai que, pour conclure, c'est un texte riche, dense, complexe, mais nous l'avons à peine effleuré ce matin, mais nous pouvons voir un peu la portée formidable qu'il peut avoir, non pas seulement dans la description, l'évocation du Christ, une évocation théologique, mais dans ses implications pour nous, dans notre relation au Seigneur. Car si cet hymne nous pousse à l'adoration de ce grand Christ qui est Jésus pour nous, si cet hymne nous pousse à l'adoration parce qu'il décrit qui est le Fils de Dieu, notre Sauveur dans toute sa grandeur, parce qu'il évoque le salut que nous trouvons en lui, c'est aussi un hymne qui nous interpelle. On n'affirme pas que Jésus-Christ est le premier-né de toute création et le premier-né d'entre les morts sans se laisser interpeller. L'est-il aussi pour moi? Est-il premier-né de ma vie? Si nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, c'est que nous sommes désormais les sujets du roi. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Oui, nous pouvons le dire. Mais si nous le comprenons comme étant notre berger, celui à qui faire confiance en toute occasion, en toute circonstance, parce que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous protège. Amen.